10 jours pour essayer de concilier l'inconciliable. Le ministre des Outre-mer est arrivé hier soir en Nouvelle-Calédonie pour sa 3e visite en 3 mois. Et c'est donc aujourd'hui qu'il va présenter son projet d'accord. L'actualité judiciaire, 1 à 2 ans de prison ferme. 3 hommes ont été jugés et condamnés hier pour un caillassage au col de la Pirogue le 9 mars dernier. 5 gendarmes notamment avaient été blessés. En métropole, le meurtre d'Aboubacar Cissé, mortellement poignardé dans une mosquée du Gard, s'invite à l'Assemblée nationale. La gauche a demandé la démission de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui a répliqué et qui accuse la France insoumise d'avoir une indignation à géométrie variable. Le fameux cap des 100 jours, Donald Trump célèbre ses 100 jours à la Maison-Blanche. Depuis son arrivée au bureau ovale, il a signé 139 décrets. C'est tout simplement du jamais vu. Du football, et Paris qui domine Arsenal. Première demi-finale allée de la Ligue des Champions à Londres. Après 30 minutes de jeu, le PSG mène 1-0 et maîtrise totalement 80% de possession de balles. La météo, large soleil, parfois contrarié par quelques nuages bas, porteurs de rares et faibles averses. Les températures sont stables, elles s'échelonnent entre 26 et 29 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, Manuel Valls est donc arrivé hier soir à 23h à Tontouta pour une visite d'une dizaine de jours. Le ministre des Outre-mer doit rester en Nouvelle-Calédonie au moins jusqu'au 8 mai, mais il se dit prêt à rester le temps nécessaire pour aboutir à un accord, Elisabeth Noir.
Un ministre des Outre-mer qui se montre très volontariste et qui affirme vouloir concilier l'inconciliable. Avant de prendre l'avion, il a mis la pression sur ses interlocuteurs calédoniens en déclarant sur RTL que s'il n'y a pas d'accord, l'incertitude économique et politique peut conduire à un nouveau désastre, à la confrontation et à la guerre civile. Manuel Valls veut mettre tout son poids dans la balance pour arriver à un accord global et il ne ménage pas son temps puisque c'est son 3e séjour en 3 mois. Il est déjà venu fin février, début mars, puis fin mars, début avril. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Le ministre d'État le souhaite et l'espère, mais il sait que ce n'est pas gagné. Le nouveau FLNKS estime que le projet d'accord version Valls ne correspond pas à ses propositions et il persiste à ne vouloir parler que de l'accès à la pleine souveraineté. Quant aux partisans de la France, ils ont fixé des lignes rouges avant de signer un accord. Manuel Valls veut concilier la volonté d'accéder à l'indépendance des uns et la volonté des autres de rester dans la France conformément aux 3 référendums. Parmi les sujets brûlants notamment, l'exercice du droit à l'autodétermination est toujours le corps électoral. Pour tenter d'arriver à quelque chose, le ministre des Outre-mer arrive avec un nouveau projet d'accord, issu notamment des discussions en visioconférence. En plus de l'avenir institutionnel, il veut aussi que les discussions portent sur le redressement des finances, les collectivités territoriales, l'avenir économique et notamment le nickel et l'avenir de la jeunesse. C'est sûr que 10 jours ne seront pas de trop.
À 10 jours en Nouvelle-Calédonie, que le ministre des Outre-mer, qui est accompagné d'Éric Thiers, le conseiller du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie, consacrera presque exclusivement aux négociations, Lionel Sabot.
Elles débuteront dès aujourd'hui, mais d'après nos informations, cette nouvelle séquence de discussion commencera par des bilatérales et non pas par une séance plénière. Le ministre des Outre-mer rencontrera aujourd'hui chacune des délégations, peut-être pour présenter à chacune le nouveau projet d'accord, peut-être pour convaincre l'UCFLNKS, qui ne voulait que des bilatérales, de participer à des séances plénière. Demain, jeudi 1er mai, c'est jour férié, il n'y aura pas de discussion, mais le FLNKS doit réunir un bureau politique élargi pour décider de la suite à donner à ces discussions après avoir pris connaissance du nouveau projet d'accord de l'État. L'objectif, c'est que dès le vendredi 2 mai, les partenaires se retrouvent tous ensemble pour négocier autour du nouveau projet d'accord. Les négociations qui feront relâche pendant le week-end, mais qui reprendront lundi, mardi et mercredi prochain. À partir de ce moment-là, les discussions pourraient se tenir sous forme de conclave ou de huis clos et elle pourrait se dérouler en dehors de Nouméa. À l'heure actuelle, le programme du ministre des Outre-mer n'a pas été rendu public, mais on sait qu'en plus de ces discussions intensives, Manuel Valls aura également quelques séquences sur le terrain. Il doit notamment effectuer un déplacement dans le Nord et un autre à Marée. Il pourrait aussi se rendre au Médipôle et à Bouloupari pour l'ouverture de la fête du cerf et de la crevette. Il devrait aussi avoir des séquences en liaison avec l'exercice Croix du Sud et il rencontrera le vice-premier ministre néo-zélandais qui sera en visite officielle sur le terrain jeudi et vendredi. Manuel Valls devrait également être présent pour la cérémonie de dépôt de gerbes du 8 mai avant de reprendre l'avion pour la métropole, sauf s'il estime qu'il doit encore poursuivre son séjour le temps nécessaire pour aboutir à un accord.
Et avant la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel, le climat reste tendu entre les groupes politiques du Congrès. Au lendemain de la séance publique qui a vu lundi l'adoption de textes relatifs à la santé, le groupe UCFLNKS et nationaliste dénonce, et je cite, « le cirque médiatique des loyalistes ». Il affirme que l'hémicycle du Congrès est devenu un ring où tous les coups sont permis et il se plaint des phrases assassines prononcées par les loyalistes à l'encontre des indépendantistes. Fin de citation. La santé lundi, puis l'environnement mardi. Pour les débats au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, les élus étaient rassemblés hier au boulevard Vauban pour une séance qui aura duré toute la journée. Le matin, seul le projet de loi du pays relative à la politique de l'eau partagée a été adopté par 33 voix pour, 2 contre et 12 abstentions provenant des rangs des loyalistes et du Rassemblement. Les deux groupes ont notamment critiqué une forme de deux poids deux mesures dans cette loi qui ne s'applique pas automatiquement sur terre coutumière. Et puis l'après-midi, les membres du Congrès ont adopté pour 50 ans un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales, et ce au sein de l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Un projet de loi qui a fait l'objet de nombreux échanges, Lionel Sabot.
Deux sujets étaient au cœur des débats. Tout d'abord celui concernant l'inscription dans cette loi du pays du terme exploration à côté de celui d'exploitation. Selon les groupes loyalistes et rassemblements, si sur le principe les élus sont pour ce moratoire et pour interdire l'exploitation, interdire l'exploration reviendrait, selon eux, à se mettre des œillères. Seuls 5% des fonds marins ont été découverts et la Nouvelle-Calédonie ne devrait pas s'interdire ce qu'elle ne connaît pas, a déclaré François Souvé, chef de file du groupe Les Loyalistes au Congrès. Ensuite, c'est la durée du moratoire qui a été débattue. Initialement prévu pour 10 ans, il a été demandé à ce qu'il passe à 50 ans. Beaucoup trop long pour le Rassemblement et les Loyalistes qui ont déposé 2 amendements, explique François Souvé.
On a décidé de l'amender parce qu'on estime qu'il manque 2 choses qui sont fondamentales. D'abord, un, c'est qu'ils ont intégré l'exploration dans cette interdiction. Or, aujourd'hui, nous, on estime qu'il faut ouvrir l'exploration puisqu'on manque de connaissances, on manque de données. Et ces données, seule l'exploration peut nous les fournir. Et ensuite, le moratoire a été posé sur 10 ans. Il a été allongé à 50 ans. Et ça, c'était pas acceptable parce que il faut le faire, mais de manière très raisonnée. On peut pas tout fermer et obérer aux générations futures l'apport de connaissances pour mieux comprendre le milieu, pour mieux comprendre les richesses qu'on a aujourd'hui et donc pour mieux développer une véritable économique, je veux dire, durable aussi. Et on a déposé ces amendements, ils ont été rejetés, c'est dommage.
Malgré l'inscription du mot exploration au moratoire, il sera toutefois possible de autoriser des missions scientifiques dans cette zone économique exclusive qui sera soumise à évaluation avant autorisation. Pour les groupes indépendantistes au Congrès, adopter ce projet de loi du pays est une façon de préserver les ressources naturelles des fonds marins calédoniens dont fait partie la mer de Corail. Omera Neslin, vice-présidente du groupe UCFLNKS et nationaliste au Congrès.
Comme le rappelle le présent projet de loi, nous ne savons que très peu des fonds marins et rien des conséquences que pourrait engendrer leur exploitation. Nous considérons qu'il serait donc irresponsable d'engager des projets dans les conséquences pourraient s'avérer désastreuses pour les écosystèmes et pour les générations futures. Ainsi, l'instauration de ce moratoire est un signal fort. Il affirme que notre priorité est de préserver les équilibres naturels et de construire un cadre juridique protégeant nos ressources. Dans la continuité de l'instauration de ce moratoire, nous recommandons que la Nouvelle-Calédonie rejoigne la Deep Sea Coalition et se coordonne avec ses frères de la Polynésie, Wallis et Futuna, pour former une coalition forte opposée à l'extraction métallurgique et minière en grande profondeur dans le Pacifique. Ainsi, chers collègues, pour des raisons écologiques et vitales évidentes, pour le bien-être de nos futures générations et pour préserver la richesse de notre océan basée sur une vision culturelle, notre groupe votera en faveur de ce projet de loi de pays.
À l'issue des débats, le projet de loi du pays a été adopté avec 32 voix pour et 10 abstentions provenant des loyalistes et du Rassemblement. Avec l'adoption de cette loi, la Nouvelle-Calédonie devient la première collectivité du Pacifique à mettre un moratoire sur une zone maritime aussi vaste. Pour Philippe Dunoyer, porte-parole du groupe Calédonie Ensemble au Congrès, il s'agit d'un symbole fort.
Le message qu'envoie la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle est une collectivité volontariste. Elle est décidée à préserver absolument ses ressources, dont d'abord on ne connaît pas le contenu, je le rappelle. Ce patrimoine, qui est celui, on va dire des générations futures, c'est l'appellation contrôlée, donc il ne faut pas considérer qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et puis, ce n'est pas non plus un frein à une activité économique qui commencerait demain matin, puisqu'il n'y a aucun projet, évidemment, ni d'exploitation, ni même d'exploration qui tape à nos portes. Mais il existe des initiatives dans le monde et des pays aussi qui ouvrent très largement leurs espaces maritimes à ces explorations sans forcément se préoccuper de l'impact que ça peut avoir. C'est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie et je pense que c'est tout à l'honneur de notre collectivité d'être à la pointe de la préservation de nos espaces marins.
Notre projet de délibération a ensuite été examiné par les élus du Congrès. Le premier portait sur la création d'un fonds de conservation de la mer de Corail, projet adopté à l'unanimité. Les deux autres portant sur la déclaration d'urgence climatique et environnementale en Nouvelle-Calédonie et celui sur la création d'un fonds de résilience du changement climatique ont reçu un avis favorable de la part du Congrès sans les votes des loyalistes et du Rassemblement qui ont voté contre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier tout d'abord. 57% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut imposer la plus grande confidentialité autour des discussions sur l'avenir institutionnel qui reprennent aujourd'hui pour donner toutes ses chances à un accord. Et ils sont donc 43% à souhaiter que ces discussions ne soient pas entourées de la plus grande confidentialité. Voici maintenant notre question du jour. Les élus ont-ils eu raison, selon vous, de porter à 50 ans au lieu de 10 la durée du moratoire sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales au sein de l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Si vous pensez qu'ils ont eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'ils ont eu tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et enfin, rendez-vous sur notre antenne. Quelle est la réponse immunitaire de la population calédonienne à la vaccination contre la Covid-19? L'Institut Pasteur a mené une étude à partir de prélèvements effectués entre janvier et août 2022. Eh bien, nous prendrons connaissance de ces résultats tout à l'heure. C'est en effet Catherine Inizan, chercheure virologiste à l'Institut Pasteur, qui sera notre invitée à 7h30. En attendant, il est 6h42 et après la pause de publicité, l'actualité en métropole et dans le monde avec notamment une séance tendue à l'Assemblée nationale après la mort d'un fidèle musulman poignardé dans une mosquée du Gard.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Pas à pas, nous défendons notre devoir de vivre ensemble. Les mots de François Bayrou à l'Assemblée nationale la nuit dernière. Le Premier ministre qui a tenté de calmer les esprits dans un hémicycle chahuté alors que les députés venaient d'observer une minute de silence en la mémoire d'Aboubacar Cissé, froidement poignardé à mort dans une mosquée du Gard la semaine dernière. Son meurtrier présumé sera présenté demain à un juge italien où il s'est rendu 3 jours après les faits. Un drame qui s'est donc invité dans les débats à l'Assemblée nationale, Alexis de la Fontaine.
Oui, après la mort d'Aboubacar Cissé, toute sa famille était présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale, entourée par la France insoumise, les socialistes et les écologistes, unis pour l'occasion. La gauche était déterminée à montrer devant les caméras cette famille endeuillée qui accuse Bruno Retailleau de les avoir boycottés. Alors la députée Sabrina Sebaï demande sa démission.
Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre.
Bruno Retailleau a immédiatement réagi. Je n'ai reçu aucune demande de rencontre de leur part. Le ministre de l'Intérieur a ensuite lancé sa riposte contre la France insoumise.
C'est vous qui avez l'indignation sélective. Lorsque dans une église à Nice, il y a quelques années, il y avait eu 3 morts, y a-t-il eu un seul rassemblement des insoumis? Avez-vous parlé de christianophobie? Non, bien entendu.
Même le recteur de la mosquée de Nîmes, également un vice-président du Conseil français du culte musulman, dénonce la récupération politique de ce drame par la France insoumise.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et lors de cette séance à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une procédure contre la Jeune Garde antifasciste. Cette association d'extrême gauche a été créée à Lyon par le député fiché S Raphaël Arnaud et elle est accusée de violence. Certains de ses membres sont même poursuivis pour des actes antisémites.
Un certain nombre d'individus appellent au contournement des règles qu'a édictées la préfecture de police. Le préfet de police, à juste titre, vient de signaler à la justice les propos d'un individu qui est d'ailleurs, par ailleurs, un attaché parlementaire d'une députée insoumise. Il incitait à contournommer le dispositif, précisément, de la préfecture de police. Eh bien, je veux vous confirmer que dans quelques heures, la procédure contradictoire contre la Jeune Garde, qui doit amener, je l'espère, à sa dissolution, sera engagée.
Bruno Retailleau qui sera l'invité de Sonia Mabrouk ce soir. Une interview à retrouver en intégralité à l'issue du journal de 17h45 sur Radio Rythme Bleu. Le ministre de l'Intérieur qui est aussi dans le viseur de Laurent Wauquiez. Il faut dire que les deux hommes sont candidats à la présidence des Républicains. Le président du groupe de la droite républicaine menace de ne plus soutenir le gouvernement s'il venait à augmenter les impôts. Il exhorte ainsi François Bayrou, le chef du gouvernement, de réaliser ses 40 milliards d'euros d'économies nécessaires uniquement en baissant la dépense publique. Écoutez Laurent Wauquiez.
La position de notre groupe est très claire. Un, la première, on ne votera aucun budget qui comprend des hausses d'impôts. Aucun. Deux, si François Bayrou devait persister sur cette voie, alors que nous avons été d'une clarté totale avec lui, oui, il y aura un débat à l'intérieur de la droite républicaine sur la question de continuer à soutenir un gouvernement. On n'est pas en soutien d'un gouvernement pour augmenter les impôts.
Laurent Wauquiez qui revendique ainsi sa liberté vis-à-vis du camp présidentiel, un argument martelé dans sa campagne pour la présidence des Républicains, alors que certains accusent Bruno Retailleau de vouloir faire des compromis avec le bloc central. Dans l'actualité de ce mercredi matin, également en métropole, cette mobilisation des médecins libéraux et des étudiants en médecine. Ils ont manifesté partout en métropole contre la loi Garot qui vise à lutter contre les déserts médicaux en instaurant par exemple une obligation de passer 2 jours par mois dans une zone dépourvue de médecins. Le reportage à Lille de Maximilien Carlier pour Europe 1.
Blouse blanche sur le dos et stéthoscope autour du cou, près de 200 médecins internes et étudiants mobilisés, tous opposés à la loi Garot qui prône l'installation des professionnels de santé dans les déserts médicaux. Elisabeth, médecin libérale, en grève et très en colère.
On nous dit qu'il faut aller dans les déserts médicaux, mais toute la France est un désert médical. On va rien résoudre du tout. On va obliger les gens à quitter leur cabinet, leurs patients, leur famille. Enfin, on est des êtres humains.
Mais moi, je pense surtout aux jeunes qui vont s'installer, ajoute-t-elle. Vous n'arroserez pas les déserts médicaux avec le sang des médecins. Voici le message qu'on peut lire sur la pancarte tenue par Anouk, interne en médecine.
On en a un peu marre et puis il faut aussi penser à la santé mentale des médecins. Il y a beaucoup de médecins en médecine rurale qui se suicident à cause du manque de soutien en fait et de la charge de travail.
La solution selon elle face aux déserts médicaux, augmenter le nombre de médecins, inciter les professionnels de santé à s'y installer sans les forcer. À Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
À Radio Rythme Bleu, il est pratiquement 6h48.
L'actualité à l'étranger, Donald Trump qui célèbre ses 100 jours à la Maison Blanche. À 7h pour nous, le président américain donnera un meeting, 100 jours marqués par une activité quasi frénétique. Retour donc sur 100 jours à 100 à l'heure pour Donald Trump avec Baptiste Morin pour Europe 1.
Oui, les chiffres sont assez stupéfiants. En 100 jours, Donald Trump a signé 139 décrets du jamais vu. Parmi eux, il y a les fameux droits de douane, ceux utilisés par le président américain pour dynamiter le commerce international. 25% sur les voitures, l'acier et l'aluminium importés, 145% sur les produits chinois, 10% pour les produits venus d'autres pays. La Maison-Blanche espère des accords et ses taxes devraient donc baisser. Mais elles ont déjà fait pas mal de dégâts. En 100 jours, les bourses américaines ont perdu environ 10% de leur valeur. Le dollar, lui, a perdu son statut de valeur refuge. Et la suite ne s'annonce pas forcément meilleure. Le FMI a divisé sa prévision pour la croissance américaine par 2. La récession était inimaginable outre-Atlantique il y a 3 mois. Elle est maintenant évoquée sérieusement par de nombreux économistes.
Il est 6h49. La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, ce sera après la pause avec notamment ses condamnations à de la prison ferme pour des caillassages au col de la Pirogue au début du mois de mars.
RRB 6h08h, Nicolas Legrand.
À vos toques, prêts, cuisiner !
La Fondation Ré des Saint-Vincent présente son concours de recettes équilibrées 2025. Prépare ton meilleur plat équilibré, une recette de cuisine bonne et saine pour bien manger. Du CE1 au CM2, près de 1 million de francs à gagner.
Plus d'infos et règlements du concours sur www.saintvincent.nc.
Fondation Ré des Saint-Vincent, faire ici, faire bien, faire bon.
Recensement de la population 2025. Du 22 avril au 22 mai, j'accueille l'agent recenseur. C'est rapide et confidentiel. Mes réponses sont utiles. Elles contribuent à dessiner le portrait de la Nouvelle-Calédonie. Plus d'infos sur Facebook, ISNC ou au numéro vert 05 20 00. Aujourd'hui, je compte pour demain.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité judiciaire en Nouvelle-Calédonie. 4 hommes ont été jugés hier. Ils étaient accusés de caillassage le 9 mars dernier dans le col de la Pirogue. 5 gendarmes avaient été blessés alors qu'ils intervenaient à la suite de l'agression de motards à l'entrée de la tribu de Saint-Laurent. À leur arrivée sur les lieux, ils ont été pris à partie par de nombreux individus, en partie alcoolisés, qui ont proféré des insultes et leur ont jeté des pierres, mais aussi en direction des automobilistes. Une fillette de 11 ans a notamment été touchée à l'arrière de la tête dans sa voiture. Trois des prévenus ont été reconnus coupables des faits de violence aggravée commise à l'encontre des forces de l'ordre. Les peines vont donc d'un an à deux ans de prison ferme. Écoutez Maître Barbara Brunard, elle représentait le plus jeune des prévenus à la barre.
C'est une audience qui a été très longue. On a passé toute la matinée sur ce dossier. La présidente a repris tous les éléments à charge et à décharge. C'est vrai que c'est un dossier qui évoque ce qui a pu se passer l'année dernière et qui ravive certaines choses. Donc c'était nécessaire de prendre un petit peu de temps. Vous avez compris que dans la tribu de Saint-Laurent, il y a quand même encore pas mal de rancœur sur ce qui a pu se passer. Donc c'est une audience qui a été très pédagogique et très intéressante, je pense, pour tout le monde. Les peines qui ont été prononcées par le tribunal correctionnel, elles nous semblent justes. Elles semblent adapter aussi bien aux faits, aux implications de chacun et puis aux personnalités.
Quant au quatrième prévenu, il a été relaxé. Il n'était pas impliqué dans ces caillassages, selon les juges. Et puis attention, la police nationale alerte sur le cas d'un faux agent de recensement qui frappe aux portes des Calédoniens. La police rappelle que les vrais agents se présentent avec une carte officielle et ne demanderont jamais d'informations sensibles, notamment les données bancaires ou encore les mots de passe. En cas de doute, ne pas hésiter à joindre la police en composant le 17. Lisez précise toutefois qu'il s'agit d'un cas isolé qui a été immédiatement signalé. Vous pouvez aussi contacter Lisez.
RRB 6h52.
Dans l'actualité économique, les instituts d'émission d'outre-mer ont présenté cette nuit à Paris le bilan 2024 des économies ultramarines et les perspectives pour 2025. L'outre-mer qui a vécu l'an dernier une succession de chocs d'origine économique et sociale, comme le mouvement contre la vie chère en Martinique, naturel avec les cyclones Belal et Garance à La Réunion, encore Chido à Mayotte, et bien sûr politique avec les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Concernant le territoire, l'Institut des missions a interrogé les patrons d'une centaine de sociétés calédoniennes pour établir son climat des affaires. Et comme il fallait s'y attendre, l'état d'esprit des chefs d'entreprise calédoniens est plutôt morose, avec des chiffres d'affaires qui ont baissé de 20 à 40% entre 2023 et 2024 et une diminution de 17% du nombre des emplois salariés, ce qui équivaudrait en métropole à 3,6 millions d'emplois supprimés, selon l'IEOM. Yvan Odona est le directeur général de l'Institut des émissions d'outre-mer. Il est au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Clairement, sur l'année 2024, on s'attend à une forte baisse, notamment parce que notre indicateur du climat des affaires a plongé, après les événements de mai, jusqu'à atteindre un creux qui dépasse le creux atteint au plus fort de la pandémie. Donc ça, c'est vraiment au deuxième trimestre 2024. Sur le troisième et le quatrième trimestre, les résultats de notre enquête montrent un très léger redressement, mais on reste sur une opinion des chefs d'entreprise concernant l'évolution de l'activité qui est assez négative. Et donc, on n'a pas encore retrouvé le climat qui prévalait avant les événements de mai.
En Nouvelle-Calédonie, comme dans les autres collectivités du Pacifique, l'Institut des émissions d'outre-mer remplit la mission de banque centrale. Elle a par exemple baissé de 4 à 2,5% les taux d'intérêt qui rémunèrent les dépôts que font les banques commerciales pour favoriser la relance économique, la reconstruction et l'immobilier. Mais pour Yvan Odona, rien ne se fera si la confiance ne revient pas. Une bonne nouvelle maintenant pour les automobilistes, les prix des carburants vont baisser au mois de mai, c'est-à-dire à partir de ce soir minuit. C'est une diminution de 6,5 francs qui est annoncée pour l'essence, qui passe donc à 160,50 francs le litre. Le diesel baisse quant à lui de 7 francs et sera facturé 141,90 francs le litre aux pompes dès le 1er mai. L'association des petits pansements du cœur a besoin d'aide. La campagne de SMS pour venir en aide aux enfants hospitalisés rencontre moins de succès cette année. La campagne SMS est lancée depuis le 17 mars déjà, mais à 4 semaines de sa clôture, l'association n'a pas atteint la moitié de son objectif. Seulement 6 800 SMS ont été reçus alors que les bénévoles en visent 14 000. Cette campagne est annuelle et les fonds récoltés servent à aider les enfants malades chroniques dans leur quotidien. La présidente des Petits Pansements du Cœur, Béatrice Monnier, relance un appel à la générosité des Calédoniens.
Actuellement, la campagne stagne, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas beaucoup. Il nous en manque à peu près 7 200 SMS, on n'est même pas à la moitié. Cette campagne, en fait, sert à réaliser le rêve des enfants malades chroniques. Ce sont des enfants qui vivent au quotidien avec leur maladie, qui vivent chez eux, qui vont à l'école, et qui viennent régulièrement pour des soins à l'hôpital. Et donc, ce serait bien de les faire rêver un peu, de les changer un peu de leur quotidien difficile en leur permettant de rêver. Donc, c'est vraiment essentiel pour nous. La PBC n'a pas de subvention et on dépend vraiment de la générosité de l'ensemble des Calédoniens.
Et vous avez jusqu'au 21 mai pour soutenir l'association. Il suffit d'envoyer don au 3677, dont au 3677, 233 francs le SMS pour réaliser les rêves des enfants malades chroniques. Et puis l'actualité religieuse, enfin, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Et tous les ans, un moment de recueillement et de prière est organisé à cette date à Nouméa, au pied de la statue de Notre-Dame du Pacifique, au-dessus de la route stratégique. À partir de 16h cet après-midi, une vingtaine de groupes de prière se succéderont sur le site pendant 24 heures pour prier, pour se recueillir et pour chanter. Un rassemblement annuel organisé par l'association Notre-Dame du Pacifique, dont la présidente est Josiane Weiss.
Je pense que Notre-Dame du Pacifique fait beaucoup, beaucoup de chrétiens aiment bien venir à Notre-Dame du Pacifique. Les gens ont une grande dévotion pour la Vierge. Ils aiment bien venir se recueillir à Notre-Dame du Pacifique. Et ces 24 heures de prière, ça consiste de 24 groupes de prière toutes les heures. Donc l'association ouvre la veille, le 30 avril, et tous les groupes suivent jusqu'au 1er mai. C'est le rosaire. Et après, on a une messe solennelle.
Et les 24 heures de prière débutent cet après-midi à partir de 16h et se terminent demain, le 1er mai, à 16h, avant une messe qui sera célébrée à 18h par le Père Sao. À cette occasion, les fidèles prieront également Saint-Joseph, puisque le 1er mai est la fête de Saint-Joseph artisan qui a été instituée par le pape Pie XII. C'était en 1955. Il est 6h56, vous écoutez RRB, on marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec notamment du football et le PSG qui est sur la pelouse d'Arsenal. Première demi-finale allée de la Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Cooper chez Cheval Distribution, c'est la marque préférée des chiens calédoniens. Ne manquez pas la promotion Cooper chez Cheval Distribution. Jusqu'au 18 mai, les croquettes chiens Cooper 20 kg à partir de 4 995 francs seulement. Ayez le réflexe, Cheval Distribution. Belle vie à Pogoti et Michel-Ange.
Besoin d'un nouveau véhicule? Alors rendez-vous au Village Automobile à Nouméa PK4.
Et oui, le Village Automobile, c'est le seul endroit qui regroupe 11 grandes marques de véhicules neufs.
Et jusqu'au 10 mai, profitez de nos prix les plus bas et venez essayer votre nouveau véhicule parmi nos marques. Chevrolet, Citroën, DS Automobile,
Great Wall Motors, Haval, Isuzu, Mercedes,
Opel, Peugeot, Power et Subaru.
Le Village Automobile, un seul endroit et des offres de folie. Le Village Automobile est ouvert en continu du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 11h30. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Matin avec l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et bien évidemment du football et la première demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain qui est en déplacement sur la pelouse d'Arsenal.
Oui, et c'est la mi-temps à l'Emirates Stadium du côté de Londres et le Paris Saint-Germain qui mène 1-0, but signé Ousmane Dembélé dès la 4e minute de jeu sur une superbe action collective. Le Paris Saint-Germain qui a dominé la première période, vous le disiez tout à l'heure dans les titres, possession de balle de 80% à un moment pour les Parisiens. Les Parisiens qui ont joué juste et qui ont été presque parfaits tout au long de la première mi-temps. Arsenal a réagi en fin de première période, mais Donnarumma, encore une fois, a été décisif à quelques minutes de la pause. Il reste donc 45 minutes à jouer dans cette rencontre et le Paris Saint-Germain mène 1-0, but de Dembélé à 4e minute de jeu. Demain, ce sera la seconde demi-finale aller de cette Ligue des Champions, le Barça recevra l'Inter de Milan.
Un mot de tennis également, Lionel, avec la suite des tournois ATP et WTA de Madrid.
Oui, alors après la coupure d'électricité géante qui a touché hier l'ensemble de la péninsule ibérique, il s'agissait ces dernières heures de remettre le calendrier des matchs à jour. Côté français, à noter l'élimination d'Alexandre Muller, battu en 2-7 par l'Américain Frances Tiafoe. Score final 6-3, 6-3. Élimination également, et c'est une surprise du numéro 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, qui a été battu en 2-7 par l'Argentin Francisco Curendolo. Qualification en revanche de l'Australien Alex de Minaur, tête de série numéro 6, ou encore du Bulgare Grigor Dimitrov, tête de série numéro 15, qui s'est imposé sur le Britannique Fernley. Hier, les deux hommes n'avaient pas pu terminer leur match puisqu'une caméra suspendue au-dessus du cours central de Madrid s'était retrouvée bloquée à la suite de la coupure de courant. Et puis chez les dames, à noter la qualification de la Polonaise Iga Świątek, tête de série numéro 2, et de l'Américaine Madison Keys, tête de série numéro 5.
Le sport enfin, c'est aussi du cyclisme avec le Britannique Samuel Watson qui a remporté la nuit dernière le prologue du Tour de Romandie, un contre-la-montre de 3,4 km dans les rues de Saint-Imier en Suisse.
Élémentaire, le coureur de 23 ans a bouclé le parcours en 4 minutes et 33 secondes, vous ne l'aviez pas celle-ci, devant le Portugais Ivo Oliveira et l'Espagnol Ivan Remco. C'est la première victoire de la saison pour l'Anglais, champion de Grande-Bretagne sur route espoir en 2023. Il portera le maillot jaune de leader à l'occasion de la première étape qui se courra la
nuit prochaine et dont l'arrivée sera jugée à Fribourg. Du côté des favoris à la victoire finale, le Belge Remco Evenepoel a terminé 8e, 3 places devant le Portugais João Almeida. Quant au tenant du titre, l'Espagnol Carlos Rodriguez, il s'est classé 56e de ce prologue. Premier français de ce prologue, Thibaut Guernalec, qui s'est classé 7e.
Effectivement, je ne l'avais pas vu venir. Merci Lionel Sabot. La météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et le temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, large soleil pour ce matin, parfois contrarié par quelques nuages bas, porteurs de rares et faibles averses circulant sur le sud-ouest et au Loyauté. Alors le vent pour ce matin sera généralement faible et variable et faible, il sera orienté sud-sud-ouest autour des 10 à 15 nœuds, ce sera aux pointes de la Grande Terre ainsi qu'à Marais. Cet après-midi, le soleil sera encore bien présent, les développements nuageux sur le relief seront limités mais donneront néanmoins quelques gouttes qui gagneront le sud-est en fin d'après-midi. Le vent toujours variable faible pour cet après-midi, se maintient presque partout sauf aux pointes de la Grande Terre autour des 10 nœuds. Les températures, elles comprises entre 26 et 29 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité de ce mercredi matin, puis le billet d'humeur de la rédaction. Et ensuite, vous nous appellerez au 25 46 46 pour vous avez un avis.
Toute l'info en trois lettres, RRB.